Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h, André Berkoff.
Aujourd'hui, émission spéciale et exceptionnelle, la police dans tous ses états, avec Alexandre Langlois, policier, secrétaire général de Vigipolice, avec Franck Baudry, président d'Alerte Police en souffrance, et avec Gilles Saccaz, ancien DGSE, la police dans tous ses états.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de fric. J'aurais pas cru, il y a 30 ans, qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi.
Une émission spéciale consacrée à ce qu'on appelle évidemment la violence légitime. Car l'État a le monopole, et c'est tout à fait, c'est dans une vraie démocratie, a le monopole de la violence légitime exercée par la police, qui consiste à protéger le citoyen. Et nous avons vu, nous en parlons aujourd'hui, et nous en parlons souvent, on se rappelle il y a 5 ans, pratiquement jour pour jour, après le massacre de Charlie Hebdo, il y avait eu des millions de Français dans la rue, il y avait eu d'ailleurs des camions et des fourgons de CRS et des cortèges qui étaient passés et qui avaient été applaudis par la foule. Aujourd'hui, ce n'est pas que le paysage a changé, le paysage social a changé, il s'est passé tout ce qui s'est passé, les gilets jaunes, les manifestations contre la réforme de la retraite, etc., qui continuent. Et on a l'impression que le paysage a légèrement changé, mais il y a un malaise, et il y a un malaise qui n'est pas mieux illustré, hélas, très dramatiquement. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 59 suicides de policiers en 2019. Il y a quelque chose qui se passe et en même temps on entend, alors évidemment de notre côté, les violences policières, les réseaux sociaux, les vidéos, nous ne prenons pas parti. Nous, on n'a jamais été, on ne sera jamais des anti-flics primaires ou quoi que ce soit, parce que l'ordre doit résister, mais justement quel ordre? Et on va en parler parce que c'est un vrai problème, c'est un problème qui concerne tout le monde. Et on va en parler avec Franck Baudry. Bonjour Franck Baudry.
Bonjour.
Vous êtes commandant de police honoraire, vous êtes président d'Alerte Police en souffrance. On va en parler avec Gilles Saccaz. Bonjour Gilles Saccaz.
Bonjour.
Président fondateur de Galice, expert en sûreté et gestion des risques, membre du comité stratégique du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, ancien DGSE, la sûreté extérieure, et justement on en parlera avec les comparaisons qu'on peut faire avec l'étranger. Et enfin, quelqu'un que nous connaissons bien, Alexandre Langlois, qui est policier, qui est secrétaire général de Vigipolice, qui avait été exclu de la police pendant quelques temps et qui ne l'est plus, et qui est auteur d'un livre qui vient de paraître, « L'ennemi de l'intérieur » aux éditions Talma. Est-ce qu'il y a vraiment, pour vous, de l'expérience de l'intérieur, est-ce qu'il y a un malaise aujourd'hui avec la police, avec le traitement à la fois que l'on fait aux policiers, mais avec le traitement qu'un certain nombre de forces de l'ordre, un certain nombre, parce qu'il ne faut jamais mélanger la minorité et la majorité, peut-être se laisse aller à certains excès. Je voudrais demander à Franck Baudry.
Il faut savoir que nos forces de l'ordre sont engagées depuis maintenant de très longues années sur des faits de terrorisme et ensuite sur les manifestations des gilets jaunes. Nous avons notamment chez les CRS, mais dans d'autres directions actives, des collègues qui emmagasinent un nombre incalculable d'heures supplémentaires,
oui,
sans pouvoir prétendre un jour les récupérer. On a parlé de les leur payer.
Mais c'est ça, ça a été même annoncé
par
Christophe Castaner.
À quelle hauteur? Parce que, on ne rémunère pas de la même manière une heure supplémentaire payée derrière un guichet
à une heure supplémentaire
dans la rue. À faire du maintien de l'ordre. Mmh. Effectivement, on peut concevoir que, notamment cette haine qui en fait est né dans la population dans le cadre du mouvement des gilets jaunes vis-à-vis des fonctionnaires de police, ait pu induire à un certain moment Je ne parlerai surtout pas de bavure. Je ne veux surtout pas parler de bavure, surtout lorsque on sait que la majorité ou l'intégralité des procédures sont encore en cours d'instruction
oui.
ou en cours
oui,
d'enquête.
Non, bien sûr, oui.
Donc, moi, j'attends personnellement les réponses judiciaires, mais on peut concevoir effectivement que ses collègues ont un véritable ras-le-bol, surtout lorsqu'ils ont en face d'eux des personnes qui leur crient « Suicidez-vous, suicidez-vous !»
Non, effectivement, on a entendu ça, mais juste pour rebondir sur ce que vous dites, et on va avoir le temps vraiment de développer tout ça. Franck Baudry, il y a eu quand même des images, je parle d'une dernière image qu'on a vue, et c'est pas parce que souvent on nous dit « oui, mais vous prenez 5 secondes d'une vidéo, vous ne donnez pas le contexte, vous ne voyez pas ce qui se passe autour, et vous dites « voilà ce qui s'est passé ». J'étais très frappé, je ne sais pas où c'était, mais il y a 2 jours encore, on voit une jeune femme qui est poursuivie, qu'un policier pousse très violemment, une jeune femme, hein, et quelqu'un à côté lui fait un croche-pied, et elle tombe de tout son long. Alors, Alexandre Langlois, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des débordements à un moment donné de ce côté-là ?
Des débordements, comme on prenait le parallèle avec l'affaire Malik Oussekim.
Oui.
À l'époque, ce n'est pas la même chose, c'est qu'il y a une réponse politique derrière.
Je rappelle que c'était les voltigeurs, il y avait des policiers, vous savez, à moto. Malik Oussekim était, voilà, et on lui avait dit, quand on a une dialyse, avait dit Robert Pandreau, on ne sort pas la nuit, etc. Enfin,
bon, et au final, la réponse a été politique, les voltigeurs ont été dissous.
C'est ça.
Voilà. C'est-à-dire que les policiers travaillent avec ce qu'on leur donne, les instructions qu'ils ont, les instructions politiques. Et à l'époque, Charles Pasqua avait fait le nécessaire pour dire bah, « il y a eu un mort, je prends mes responsabilités, je supprime ces unités ». Maintenant, nous avons M. Castaner. Malgré cette expérience, donc 30 ans plus tard, lui remet en place des simili de voltigeurs. M. Castaner nous épuise régulièrement au travail. Monsieur Castaner, c'est lui qui équipe les policiers de tout le matériel qu'on peut voir. Parce que le jour où il y a eu le croche-patte, il y a eu celui des jardins, un manège où il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été tirés, un jardin d'enfants également sur une place. Donc on arrive à des choses où on est dirigé par des gens qui nous font faire n'importe quoi. Et dans tout ce climat, effectivement, il y a quelques collègues, comme ce croche-patte qui est inadmissible parce qu'il n'y a pas de raison apparente. Après, il y aura une enquête qui on fera la lumière. Mais apparemment, à première vue, il n'y a aucune raison de faire un croche-patte à quelqu'un. On a aussi des gens au niveau qui nous dirigent, qui laisse faire tout et n'importe quoi d'un côté et de l'autre côté. Et on a un discours complètement lunaire de M. Castaner lors des vœux de la police nationale, qui dit « maintenant je vais remettre de l'ordre ». Il faudrait déjà mettre de l'ordre à la tête de la police nationale, et l'exemplarité doit commencer par nos chefs.
Alors justement, à propos de l'ordre et à propos de justement des autorités, avant même et plus haut encore que Christophe Castaner, il y a Édouard Philippe. Alors je voudrais vous faire réagir, et notamment évidemment Gilles Sacaz, sur ce qu'a dit au journal de 20h, dimanche 12 janvier, Édouard Philippe, écoutez.
Quand on veut désigner les policiers, on peut utiliser le terme « force de l'ordre » ou « gardien de la paix ». Les deux sont importants. Il faut parfois utiliser la force pour amener l'ordre. Et il ne faut pas en avoir peur.
De manière proportionnée ?
Bien sûr, bien sûr. Mais les policiers, c'est aussi les gardiens de la paix. Et ce qui fait qu'ils ont une mission qui est redoutablement difficile. Et qu'il faut avoir un soutien, une confiance et une solidarité vis-à-vis d'eux exceptionnelle. Mais parce que justement leur mission est incroyablement difficile, parce qu'elle est incroyablement importante, il faut avoir beaucoup d'exigences. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il y a un usage disproportionné de la force, quand on ne respecte pas les règles d'engagement, alors il doit y avoir enquête, il doit y avoir sanction le cas échéant. Il faut donc être dans la solidarité totale.
Voilà, alors on sent très bien, il dit d'un côté effectivement force de l'ordre, gardien de la paix, mais s'il y a excès, bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Sacaz, de ce qui se passe actuellement ? On voit très bien, là, le débat est lancé. Et jusqu'où ? Enfin, où on met le curseur ? Est-ce qu'il y a un curseur à mettre ? Jusqu'où on va ?
Moi, ce qui m'inquiète, en toute sincérité, bon, d'abord, je n'ai pas culturellement, pour des raisons culturelles, éducatives, j'ai porté l'uniforme, etc. Je suis plutôt, je dirais intuitivement et spontanément, du côté de l'uniforme, donc du côté des policiers, y compris quand les situations sont... Là, ce qui m'inquiète, moi, c'est que pour avoir observé des situations dans des pays en crise, je vois aujourd'hui s'aligner en France des jalons que je n'imaginais pas possible il y a encore 15 ans, 20 ans.
Comme par exemple ? Comme par exemple ?
Comme par exemple une surenchère, une haine de part et d'autre. C'est intéressant l'épisode que vous évoquiez tout à l'heure. Je veux dire, qu'est-ce qui passe dans la tête de ce policier qui fait un croche-patte à une dame qui a failli, si on parle des mêmes images, en plus tomber sur un poteau métallique ? Il y a un problème. Pourquoi on en arrive
d'armée.
À ça oui. Moi, je crois que ça m'attriste profondément. D'abord parce que j'ai beaucoup de copains, j'ai beaucoup d'amis dans la police, et beaucoup plus dans la police que de l'autre côté, côté syndicaliste ou côté gilet jaune. Donc ça me rend malade, parce que quand on en parle entre nous, ils sont malades eux-mêmes. Donc ça rejoint En gros, la mission est difficile. D'une façon générale, la mission est difficile. Et là, elle est dans un contexte aujourd'hui où nos forces de l'ordre, nos policiers, font face au front du terrorisme. Et ça, depuis quand même maintenant, depuis une vingtaine d'années, on va dire, et de façon intense, depuis une dizaine d'années, avec l'accélération qu'on a connue ces dernières années. Ils font face à un front social, si vous voulez, qui est quand même, de ma génération en tout cas, assez atypique, assez unique, qui s'est transformé, me semble-t-il, non plus en crise sociale, mais en crise de gouvernance.
Je dirais presque en crise de régime, au-delà même du gouvernement actuel.
Bien sûr, mais c'est pas, je veux dire, le gouvernement actuel a pris une situation et après il la gère ou il l'aggrave, mais je veux dire, la situation, elle n'est pas née il y a 2 ans.
Mais quand vous dites que les jalons ont changé, c'est-à-dire que vous dites qu'on a, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une espèce de violence de part et d'autre, en tout cas de haine ou de ressentiment ou de méfiance accélérée, enfin beaucoup plus forte.
Oui, et notamment sur le troisième point que j'allais évoquer, c'est-à-dire la montée globale de la violence dans la société, mais les policiers sont forcément en première ligne. Puisqu'ils représentent l'État, je pense que cette haine en fait, du policier, c'est parce que le policier, c'est le dernier rempart du politique, de l'élite, du gouvernant, de l'institution. Cette haine, en fait, elle est dirigée probablement contre un ras-le-bol des politiques, etc. Les policiers sont là, et fort heureusement, pour faire écran. Et pour vous le disiez tout à l'heure, ce sont les gardiens du temple, je veux dire, pour tenir l'institution. Et donc, ils sont en première ligne. Et cette.
L'usage légitime de la force,
comme
on dit.
Oui, bien sûr. Mais je pense que la situation, ce qui m'inquiète, encore une fois, c'est qu'on voit des scènes, ou alors c'est parce que peut-être je m'y intéressais moins avant, mais on voit des scènes quasi insurrectionnelles, si vous laissez. Et c'est insupportable, parce que les policiers ne sont pas, au final, pas formés pour ça.
Alors justement, vous parlez de scènes insurrectionnelles, je ne sais pas si on en est là, mais effectivement, on peut tout à fait se poser la question. Franck Baudry, est-ce que quand même, Alexandre Anglois en parlait, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi qui est les rapports du policier et du politique? Évidemment, le policier est soumis et exécute les ordres du politique, c'est normal, le politique, c'est l'exécutif. Bon, on a parlé beaucoup, on ne va pas rentrer dans tous les détails, des Black Blocs, je parle d'une syndicaliste policière qui s'appelle Linda Kebab, ici même, chez moi, Sud Radio, dans Berkov, dans tous ces états, a dit, écoutez, pour vous donner un exemple, elle a dit, mais vous savez, les Black Blocs, on sait quand ils viennent, on sait où ils sont, mais on n'a pas l'ordre de les arrêter préventivement et autres. Ce n'est pas un anarchiste gilet jaune qui a dit ça. Alors, comment vous analysez ça? Quel est votre ressenti?
Écoutez, moi, je rebondirai aussi sur ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, c'est que effectivement, il faut avoir les bons décideurs au bon moment, et on ne les a pas toujours. On a assisté à des périodes de flottement sur les premiers actes à partir du moment où le mouvement a commencé.
Des gilets jaunes,
tout à fait. À partir du moment où le mouvement a commencé à monter en violence, on assistait effectivement à des moments de flottement de la part de nos collègues sur le terrain parce qu'il y avait une absence total de cohésion au niveau de nos dirigeants, quels que soient les, je parle à toutes les strates, les ordres n'ont peut-être pas été donnés d'intervenir à ce moment-là. Mais bon, les Black Blocs, on connaît la manière dont ils procèdent. Ils s'infiltrent, c'est eux qui commencent à provoquer les violences. Et lorsque on donne l'ordre aux fonctionnaires de police d'intervenir, eux, ils se sont dispersés. Ouais. Et ce sont les gilets jaunes qui se retrouvent en face, qui ont été manipulés, qui ont commencé aussi et peut-être à sentir une haine monter en eux, qui se retrouvent au contact des policiers, et les Black Blocs sont dans la nature.
Oui, et ça fait effectivement ce qui s'est passé après, des gens qui se retrouvent en disant comment, mais j'étais là en train de manifester, droit de manifestation, et il se passe ce qui se passe. On va continuer juste après cette petite pause, on continue et on essaye d'analyser effectivement, c'est très important et vous êtes là et vous êtes très bien placé pour le faire, les raisons de ce malaise. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Nous continuons à parler du malaise, pas seulement malaise de la police, malaise dans la société, malaise social, tout est lié évidemment, avec Alexandre Langlois, avec Franck Baudry et avec Gilles Saccaz. Et nous aurons bientôt le sénateur François Grosdidier. Je voudrais vous parler de... On a beaucoup polémiqué là-dessus. Vous savez, sur l'histoire des armes, du LBD-40 notamment, de certaines personnes, il faut le dire, qui ont été éborgnées, visées à la tête et autres, de cette espèce justement de l'utilisation d'un certain nombre d'armes, etc. Alexandre Langlois, vous nous en avez déjà parlé, vous en avez parlé aussi ailleurs, bien sûr. Sans entrer dans une généralisation qu'on ne fera jamais, est-ce que ces armes-là, est-ce que la manière dont il y a eu, on a l'impression en tout cas, parce que Dieu sait s'il y a eu des manifestations en France, est-ce que ça se justifiait ou est-ce que, alors on vous dit oui, mais à un moment donné, quand il y a une très violence, il faut bien que les policiers répondent. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'en France, on a la chance d'avoir un arsenal qui permette de répondre de façon proportionnée aux menaces qu'on subit. C'est-à-dire que maintenant, si jamais nous n'avons pas une arme, pas forcément le LBD, mais de catégorie intermédiaire. C'est-à-dire qu'on doit passer du tonfa, qui est une matraque japonaise, au pistolet. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un nous jette un pavé ? C'est une arme à distance. Qu'est-ce qu'on fait ? Le tonfa, ce sera trop court. Le pistolet, on va peut-être pas le tuer parce qu'il nous a jeté un pavé. Pourtant, c'est une arme par destination. Donc, c'est nécessaire d'avoir des armes intermédiaires pour neutraliser des personnes qui sont dangereuses pour autrui, qui peuvent menacer et blesser des personnes. Après, le vrai problème des armes, c'est la formation qui va autour. Parce qu'en fait, on pourra, si jamais les gens ne sont pas formés avec ces armes, nous, on s'est été alertés sur ça, tes collègues en CRS nous avaient dit, on a une formation de 5 balles tous les 2 ans. On s'en était alerté à l'époque. C'était juste
5 balles à tirer
tous les 2 ans. C'était juste après Viry-Châtillon, donc il y a 3 ans. Ouais. Et la réponse qu'on a eue de la Direction Générale de la Police Nationale, ça a été, ah bah du coup, on va passer à tous les 3 ans. Pour des raisons d'économie budgétaire, chaque balle coûtant 16 euros. Donc je veux dire, on est passé dans quelque chose de complètement opposé.
C'est hallucinant ça. Vous voulez dire que la formation se passe avec des LBD-40 qu'on utilise, les gens qui l'utilisent font une fois tous les 2 ans
Tous les trois ans depuis Gilles Châtillon. C'est-à-dire qu'en plus, on va dans le mauvais sens. Monsieur Castaner, en poste, donc, jusque depuis novembre dernier, au mois d'août, a déclaré à la radio également qu'il y avait un problème de formation autour du LBD. On lui répète depuis le mois de décembre 2018. Donc il lui a fallu 8 mois pour se rendre compte. Résultat des courses, budget 2020, formation police, plus €1 million en moins. Donc au bout d'un moment, il y a des incohérences complètes. Et après, nous avons un ministre qui va se ridiculiser au tableau sur une émission devant des enfants en primaire et qui ne sait même pas expliquer comment fonctionne un LBD. Donc au bout d'un moment, on ne vient pas donner des leçons de morale et des explications quand on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc sur le terrain, il faut une formation très précise et qu'encadre les personnels. Ce que je n'arrête pas de répéter, les gendarmes sont beaucoup mieux formés que nous au LBD. Ce n'est pas un tir de temps en temps, c'est dans des situations proches de l'opérationnel.
Oui, les militaires,
voilà,
oui, c'est ça.
Et pour le coup, ils sont moins inquiétés par des procédures soumises à caution.
Alors justement, Gilles Saccaz, comment ça se passe à l'étranger, enfin dans les pays que vous connaissez ? D'abord, une question très précise, est-ce que le LBD 40 est utilisé ailleurs ? Un peu partout, à votre connaissance.
Alors, très peu dans les pays avec un niveau de démocratie, enfin là, je parle sous contrôle, mais d'un niveau de démocratie comme le nôtre. C'est-à-dire que je reste malgré tout persuadé que c'est une arme intéressante pour les mêmes raisons, dans un emploi tactique intermédiaire, je dirais. Je pense que c'est intéressant, mais il faut qu'il soit...
Formé.
Qu'il fasse l'objet de formation. Vous le disiez, les gendarmes, enfin, j'osais pas, moi, étant ancien militaire, aborder le sujet, mais il me semble qu'il y a moins, aujourd'hui, de problèmes chez les gendarmes. Et l'humain, l'homme est le même partout, je veux dire. C'est lié à quelque chose, à la formation, à l'encadrement... Après, il y a des pays, évidemment, mais qu'il ne faut pas copier, qu'il ne faut pas envier, où la police a un niveau, et c'est plutôt ce que j'ai connu,
a un niveau de violence bien supérieur. C'est vrai.
Mais paradoxalement, on en arrive aujourd'hui à un tel niveau de violence, parce que peut-être, en amont, on n'a pas permis aux policiers d'être respectés pendant des décennies. Etc. Je veux dire, il y a tout un contexte culturel qu'on paye aujourd'hui.
On va en parler justement, et on est ravis d'accueillir au téléphone, en tout cas, M. François Grosdidier. Bonjour, M. Grosdidier.
Bonjour.
Bonjour. Heureux de vous entendre. Vous êtes sénateur de la Moselle, vous êtes conseiller municipal de Wapi et de la métropole de Metz, bien sûr. Et surtout, vous êtes quand même, de ce point de vue, bien expert, puisque vous avez été rapporteur de la commission d'enquête du Sénat sur l'état des forces de sécurité intérieure en 2018. Alors justement, où on en est ? C'est quoi aujourd'hui l'état des lieux, puisque vous avez été la personne, en tout cas la plus renseignée de ce point de vue-là.
Bah écoutez, l'état continue à se dégrader et ce qui est rageant, c'est que ce qui se produit aujourd'hui était parfaitement prévisible. Nous avions enquêté sur le sujet, nous avions fait un grand nombre de propositions, dont quasiment aucune n'ont été suivies, ou parfois un dixième seulement a été mis en œuvre.
Oui, alors justement, qu'est-ce que vous aviez ? Vous pouvez nous donner deux ou trois exemples de dysfonctionnement ou de choses qui n'allaient pas ?
On a d'abord le fait que nos forces de l'ordre sont complètement saturées, non pas parce qu'on n'a pas assez de policiers et gendarmes, on en a 250 000, on est dans la moyenne européenne, mais parce que nos policiers et gendarmes sont occupés aux deux tiers par la procédure pénale, parce qu'on est beaucoup plus procédurier que les autres pays, et beaucoup plus paperassier, et un tiers seulement sur le terrain. Donc on a une tension sur les effectifs. Ensuite, ils n'ont pas le matériel de base et l'entraînement de base. Tout ce qui a été dit sur le manque de formation, et quelqu'un se le confirme, mais nous l'écrivions. Il n'y a même parfois suffisamment l'entraînement au tir réglementaire, c'est-à-dire que s'ils font un tir mortel et que le juge vérifie s'ils ont bien fait leur tir réglementaire, ils se trouvent même en difficulté. Et pour les LBD a fortiori, puisqu'on a en plus utilisé, parce que les circonstances l'imposaient, on a eu des véritables délinquants qui sont introduits dans les manifestations. Donc, du coup, les personnels habitués au maintien de l'ordre ont dû intervenir de la même façon qu'on intervient contre des violences urbaines. C'est pas le même cas, c'est pas les mêmes armes, et ils ont tiré avec des LBD pour lesquels ils n'étaient pas suffisamment entraînés. Formé. Pour rajouter là-dessus, depuis qu'on l'a dit, un an et demi de manifestations, ils ont été agressés systématiquement, effectivement explosifs. Donc je regrette que le gouvernement n'ait pas pris pleinement la mesure du problème psychologique extrêmement profond et n'est pas mis en œuvre. On sait très bien que tous les retards d'investissement ne peuvent pas être récupérés en un an ou en deux ans. Mais si on avait une loi de programmation, qu'on ait affiché une perspective à 5 ou à 10 ans et que les policiers et gendarmes sachent où ils vont et que par ailleurs, ils soient assurés d'une réponse pénale un peu plus ferme et d'une meilleure articulation aux policiers et à la justice, ils reprendraient confiance. On en est très loin aujourd'hui. On a plutôt l'impression qu'à chaque fois, le fossé se creuse et il s'est encore creusé ces dernières semaines.
Merci François Gaudidier. Justement, Franck Baudry, comment vous réagissez à ce que dit François Gaudidier ?
Écoutez, je ne puis qu'abonder dans les propos tenus par monsieur le sénateur. Moi, je suis retraité depuis 2012 et en fait, les choses ne sont pas allées en s'améliorant.
En s'améliorant, c'est le moins qu'on puisse dire.
J'ai œuvré durant plus de 30 ans au sein de notre administration, au sein de notre grande maison, puisque c'est ainsi qu'on l'appelait à l'époque. J'ai parfois l'impression maintenant qu'elle a tendance à devenir beaucoup plus petite qu'elle ne l'était auparavant. Mais je rejoins tout à fait M. Gros-Didier dans le constat qu'il a fait, puisque c'est le même que je suis amené à faire également.
Oui, donc effectivement, la situation ne s'est pas améliorée, ne change pas, et c'est assez étonnant quand même qu'on ait des politiques qui ne sont pas, écoutez, plus aveugles ou plus sourds que d'autres, et on a l'impression qu'après, ils réagissent au fur et à mesure, et on laisse faire, de part et d'autre, des choses qu'on ne devrait pas laisser faire. Gilles Sakka, c'est quoi ? C'est un manque de cap, c'est un manque de prévision, c'est un manque de... C'est-à-dire, on dit, écoutez, vous avez le monopole, c'est vous, les forces de l'ordre, hein, ça veut bien dire bien ce que c'est, force de l'ordre, les gardiens de la paix, comme dit Édouard Philippe, ça veut bien dire ce que ça veut dire, gardien de la paix, simplement, s'il n'y a pas les moyens, effectivement, et si on laisse faire quelques excités, comme dit Alexandre Langlois, on a l'impression qu'effectivement, je ne dirais pas un abandon, n'exagérons rien, mais quelque chose dans le politique qui dérape, quoi.
Oui, et puis on pourrait ajouter à ce qui a été dit, matériel, équipement, formation, management et reconnaissance en interne, c'est-à-dire de la hiérarchie. On sent bien qu'il y a un souci, mais reconnaissance même de la société, dans son ensemble, de l'uniforme, du métier de policier, etc. Mais ça, là, on paye aujourd'hui, dans une crise majeure, encore une fois, de gouvernance, on paye 40 ans de culture un peu, qu'on observe nulle part ailleurs. Moi, je me rappelle des scènes en zone urbaine en France, où on voit des gens qui provoquent la police en traversant doucement devant une voiture de police. Mais... Bon, je veux dire, vous faites ça dans la majorité des pays que j'ai connus. Ils s'arrêtent, ils descendent et ils règlent le problème.
Et ils réagissent, oui, absolument.
On en arrive à un stade, en fait, où il y a une violence, en fait. Si vous voulez, on est fort avec les faibles, pour faire simple, on est fort avec les faibles, c'est-à-dire les gilets jaunes, les gens qui viennent de province, qui sont primo-manifestants la plupart du temps, et on est faible avec les forts, c'est-à-dire ceux qui viennent provoquer, confrontés. Moi, je veux bien qu'on soit surpris, parce qu'il faut rester humble. Je veux dire, la guérilla urbaine à laquelle ils font face, elle n'est pas facile à régler. Et bien imprudent, celui qui se mettrait à donner des leçons. Mais je veux bien qu'on soit... C'est la République française, quand même. On a quand même quelques siècles, quelques décennies d'existence.
Voilà, 1500 ans d'histoire, on pourrait peut-être réagir autrement.
Exactement, si vous voulez. On vient pas de découvrir le maintien de l'ordre, on vient pas de découvrir la guérilla urbaine, etc. Moi, je comprends pas qu'on peut être surpris par les Black Blocs un week-end, deux week-ends, trois week-ends.
Mais pas un an.
On se réarticule.
Deux semaines.
Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous soulignez tout à l'heure, qui a été dit, que j'ai entendu également sur votre antenne, par Linda Kebab. Bon, ça devrait faire hurler tous les démocrates. Je veux dire, elle est en train de nous dire, syndicat de police, elle nous dit, politiquement, on a peut-être un problème, est-ce qu'on ne laisse pas dégrader la situation pour discréditer le mouvement social, les Gilets jaunes, au détriment de nos policiers qui, au final, ils seront lâchés, parce que le politique, lui, il y a une alternance.
C'est tout le problème.
Les policiers restent.
On continue d'en parler avec vous après cette petite pause.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Et nous continuons cette émission spéciale, et je pense que vous trouverez exceptionnelle, avec Alexandre Langlois, policier, secrétaire général de Vigipolis et auteur de L'ennemi intérieur aux éditions Talma, avec Franck Baudry, commandant de police honoraire, président d'Alerte Police en souffrance, et avec Gilles Saccaz, président fondateur de Galis, expert sûreté et gestion des risques, ancien de la DGSE. Et je voudrais rebondir sur ce que vient de dire M. Saccaz, sur effectivement attention de ne pas être fort avec les faibles et faible avec les forts. Et ça m'a tout de suite fait penser, je pense que je ne suis pas le seul. Qu'est-ce qui se passe effectivement du fait que on a suffisamment parlé depuis 20 ans déjà ou presque des territoires perdus de la République, où pas seulement les policiers, mais les pompiers ne peuvent plus entrer, et on l'a vu encore récemment, sans se faire caillasser et agresser, les pompiers qui viennent des armées, qui viennent pour sauver des vies, et c'est-à-dire on arrive à un stade quand même qui est un stade très grave. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que dans les banlieues, tout le monde connaît ça depuis 20-25 ans, hein, c'est pas... et que là, on dirait qu'on prend plus que des gants, on fait très attention, on dit pas que la police n'y va pas, mais il y a quand même un problème à la fois de radicalisation, à la fois des drogues, à la fois de trafic, et on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, Alexandre Langlois.
Ben, il ne se passe pas grand-chose parce qu'une fois de plus, on n'a pas de volonté politique. Je vais redonner le dernier exemple en date, où c'est en plus le département où je travaille, où il s'est passé Chanteloup-les-Vignes.
Oui.
Où il y a eu un cirque et un centre culturel qui a été brûlé, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la situation se dégrade depuis plusieurs mois. Les services de police alertent en disant...
Chanteloup-les-Vignes qui est en...
Dans le 78.
Dans le 78, oui, c'est ça.
Et en disant, voilà, il y a des dealers qui ne veulent pas la rénovation du quartier parce que ça va les déranger. Donc, ils mettent la pression sur les bailleurs sociaux, ils mettent la pression sur les entreprises. Et comme ça ne comprend pas, et ben, du coup, ils sont allés brûler, ils ont incité des jeunes à aller brûler un centre culturel. Donc là, il y a le discours politique. Le discours politique arrive quand, par exemple, M. Édouard Philippe ou M. Castaner parlent des manifestations gilets jaunes. On parle d'insurrection, de la peste brune.
Ou quand, l'extrême droite.
Voilà, on parle de tout ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est un discours. Quand on attaque une permanence LRM, ce qui n'est pas très futé et c'est du contraventionnel, ils parlent d'actes de terrorisme, alors que c'est du contraventionnel. Quand on parle de gens qui viennent soutenir des dealers de drogue et tout casser dans la cité, on parle d'irresponsables et de jeunes abrutis. Eh ben, je veux dire qu'un discours pareil, effectivement, on ne va pas aller très loin. Deuxièmement, les politiques ne se déplacent pas à minuit, quand nos collègues sont en plein cœur de l'action, voir comment ça se passe. Ils viennent le matin, quand tout est calme, encadrés par tellement de policiers que tout se passe bien. Petite anecdote, tout le monde m'a demandé cette année pourquoi dans les Yvelines, avec Trappes, Mont-de-la-Jolie, ça a moins brûlé, y a eu moins de voitures brûlées que d'habitude. Tout simplement, M. Castaner était présent dans le département. Donc quand un ministre, et encore plus le ministre de l'Intérieur est présent, il y a un déploiement tellement énorme de CRS que plus personne n'ose bouger. La deuxième chose également, c'est qu'on doit faire du chiffre dans la police nationale, du chiffre sur les boulettes de chiffre, tout ça, c'est toujours d'activité, on est noté sur ça. Et surtout, notre haute hiérarchie est notée sur ça. Donc ça, il faut en faire beaucoup. Pour la tranquillité et la paix publique, ça ne règle rien du tout. Si on voit l'infraction, il faut qu'on la fasse cesser, mais ce n'est pas ça qui va régler le problème du trafic de stup de façon générale.
Je voudrais aborder ce problème du suicide dans la police. 59 suicides en 2019, et on vient de parler, 3 depuis le début de l'année. Franck Baudry, qu'est-ce qui se passe? Policiers en souffrance, Alerte Police en souffrance, ça dit bien ce que ça veut dire, dont l'association, vous êtes président. Qu'est-ce qui se passe vraiment?
Il y a effectivement des suicides un peu partout. mais il a été quand même prouvé, et des études l'ont établi, que le suicide dans la police nationale est bon an, mal an supérieur de 30% par rapport à toutes
moyenne.
Les autres... Oui, à la moyenne. De toutes les autres, 30% supérieur par rapport à toutes les autres catégories socio-professionnelles. Et voilà, cette année, M. Castaner, je vais encore une fois parler de lui. Il existe un service qui s'appelle le SSPO, qui dépend directement du ministère de l'Intérieur. C'est le service de soutien psychologique opérationnel. Il y a 90 psychologues cliniciens. J'ai fait le ratio. Nous sommes environ 150 000 fonctionnaires de police sur l'ensemble du territoire national et hors métropole. Cela fait à peu près un psychologue pour 1500 fonctionnaires à 1600 fonctionnaires de police. Donc, M. Castaner a mis en place une ligne verte. Ils en sont à 700 appels. Ce sont les chiffres qui m'ont été donnés la semaine dernière lorsque j'ai été reçu par Mme Julien, la directrice de l'inspection générale de la police nationale. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que l'on cherche absolument à trouver des remèdes sans avoir réellement posé de diagnostic.
Global, oui.
Il n'y a jamais eu d'études sociologiques menées en France pour savoir pourquoi des fonctionnaires de police passent à l'acte ou pourquoi des fonctionnaires de police, à un moment donné, ont eu envie de le faire. J'en parle
Vous
en connaissance.
Il n'y a pas eu d'études du tout.
Non, il y en a eu peut-être une, mais il y a très longtemps. Là, il n'y en a pas eu, mais très récemment. D'ailleurs, bon, ça a été dit sur, chez un de vos confrères, ça a été établi. J'en parle en connaissance de cause quand je parle du passage à l'acte. C'est parce que moi-même, j'ai failli passer à l'acte en fin de carrière.
Pourquoi vous avez été tenté, si ce n'est pas
Non, je ne m'en cache pas du tout. J'ai été victime de la pression d'un de mes hiérarques, que je préfère ne pas nommer. Ouais. De toute façon, les faits sont prescrits maintenant. Mais voilà, j'ai été victime d'une pression de la part de la hiérarchie. Nous, au sein de notre association, nous avons mené une étude au sein de nos adhérents, en demandant à ceux qui étaient encore en vie et qui avaient à un moment donné eu cette idée de passer à l'acte, quel avait été le phénomène qui aurait pu les y pousser.
Oui.
La réponse récurrente que l'on a, le premier item qui revient, est le manque de reconnaissance. Alors, le manque de reconnaissance de la part de la hiérarchie, le manque de reconnaissance de la part de nos concitoyens, mais ça c'est quelque chose que l'on ne peut maîtriser, bien entendu, mais également le manque de reconnaissance de la part des collègues entre eux. Et cela, ça a été entretenu, peut-être, à un moment donné, par la hiérarchie. On a maintenant des chefs de service qui, en fait, sont dans leur bureau, qui ne sont presque plus présents sur le terrain et qui sont là pour faire des statistiques.
Ouais.
Ni plus ni
du
moins.
Du chiffre.
Voir ce on que en ça revient donne. Toujours à la même chose.
Ouais. Gilles Sacaz, on a l'impression d'une situation un peu fermée. Tout cela, tout ce que vous avez décrit, tous les trois, et ce qu'a dit aussi François Gaudidier, le sénateur de la Moselle, on a l'impression que tout le monde sait, on sait ça, on a entendu ça, il faut le redire et le dire, et on a l'impression qu'après, quand il s'agit d'agir là-dessus, il n'y a plus personne, ou alors je ne sais pas.
C'est très intéressant, j'attendais justement pour parler de la reconnaissance. C'est très, à la fois interne, ouais. C'est important, évidemment, parce que c'est la proximité, elle est quand même là, et le quotidien, il est là, mais aussi de la société. La réponse, est, comme sur la crise sociale, comme sur ce problème de reconnaissance, elle ne peut être que politique. C'est-à-dire que les policiers, c'est le bras armé du politique, c'est pas l'inverse.
Bien sûr.
Donc la réponse, elle ne peut être que politique, et quand on voit, encore une fois, sans lancer des polémiques, quand on voit des magistrats sans rentrer dans le stéréotype des gens qui
libèrent quelqu'un 6 heures après avoir été arrêté.
Tout simplement, quand vous avez des chanteurs qui appellent à tuer des policiers et qui ont une amende à payer, et encore avec sursis.
S'ils ont une amende.
Vous voyez ce que je veux dire ? Le policier qui entend ça, si lui tient des propos vis-à-vis d'une communauté, quelle qu'elle soit, il va perdre son job ou il va être fortement sanctionné.
Ouais.
À l'inverse, on peut tout dire sur les policiers, on peut les insulter, on peut les appeler à suicider, on peut les appeler à être tués, on peut, sans qu'il y ait de sanctions. C'est le modèle de société. Et ça, la réponse, elle est politique. C'est ce à quoi je pensais tout à l'heure, quand je vous disais, en réalité, aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, on est dans une crise profonde, me semble-t-il, et inquiétante pour l'avenir, mais on traîne 40 ans de choix philosophiques ou de choix à un moment donné. Les policiers doivent être soutenus, ils doivent être... Et le politique doit envoyer des messages forts, pour, mais pas forts en tapant sur les gilets jaunes.
Non, non. Messages forts en étant forts, en sachant ce qu'ils veulent faire et qu'ils disent ce qu'ils veulent faire et faire ce qu'ils disent. Messieurs, merci. Merci Alexandre Langlois. On reparlera de votre livre. On fera revenir pour parler du livre. Merci Franck Baudry. Et tenez-nous au courant, évidemment, de ce qui se passe avec votre association, et merci Gilles Saccaz, le militaire. Et je crois que, effectivement, c'est toujours une question, c'est pas pour rejeter sur le politique, mais le politique, c'est lui qui décide, c'est lui qui donne le cap, et c'est lui qui, en définitive, doit prendre toutes ses responsabilités.
Merci à vous André Bercoff. Aussi, tous ceux qui nous ont écoutés sur Sud Radio peuvent retrouver la vidéo de cette émission spéciale d'André Bercoff sur le malaise de la police, dans la police, aussi bien sur le Facebook de Sud Radio que sur notre page YouTube, évidemment. André Bercoff revient donc à midi lundi prochain en direct et dans tous ses états sur Sud Radio, comme chaque semaine évidemment. Nous, nous poursuivons notre journée sur Sud Radio puisque dans quelques instants nous allons retrouver juste après les informations Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Aujourd'hui, Jacques Pessis reçoit un animateur que vous avez dû voir plusieurs fois, de nombreuses fois d'ailleurs à la télévision, puisqu'il s'agit de Patrice Lafont, Fort Boyard, Pyramide, des chiffres et des lettres, bref, tous nos souvenirs d'enfance, ou presque. En tout cas, voilà, les clés d'une vie avec Jacques Pessis et Patrice Lafont, c'est dans quelques minutes, juste après les informations. À tout de suite sur Sud Radio.